Florence Noiville, vous êtes actuellement écrivain et journaliste, mais vous ne l'avez pas toujours été. Et parmi les titres de vos nombreux livres, il y a un titre avec lequel on peut commencer à vous interroger. J'ai fait HEC et je m'en excuse. Vous avez donc fait HEC, Florence Noiville ?
Les deux sont vrais. J'ai bien fait HEC et je continue de demander pardon d'une certaine façon, oui. Vous allez me demander pourquoi.
Ben oui, alors je vous demande pourquoi, Florence Noiville.
D'abord, je pense qu'à l'époque, j'étais comme une espèce de jeune bachelière qui réussissait bien dans ses études et puis qui ne s'était pas posé beaucoup de questions. Et donc, voilà, on m'a dit tu es prise en classe préparatoire à Louis-le-Grand. Bon, c'était prestigieux. Puis après, j'ai dit c'est quoi l'étape d'après ? Ben, l'étape d'après, c'est de réussir le concours d'HEC. Bon. Vous voyez, le genre de parcours où on se dit je saute des haies les unes après les autres sans vraiment se poser la question. Et la question de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, eh bien, je me la suis posée en réalité très tard.
Quel a été le déclic ?
Le déclic, c'est que ça faisait 4 ans que je faisais de la finance pour une grosse corporation américaine et que je me suis dit un jour, mais ma foi, je peux pas faire ça, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, c'est pas possible. C'est pas que c'était inintéressant intellectuellement, c'était une sorte de gymnastique un peu rigolote, mais ça ne meublait pas du tout une vie, du point de vue du sens. C'était pauvre. Au fond, la finalité ultime de ça, c'était, on me disait, « Well, Florence, listen, how can you maximize profit ? Comment est-ce que vous pouvez maximiser le profit ?» Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas consacrer ma vie à ça. Et là, les problèmes ont commencé, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse au fond ? Alors ça, c'est quand même une question intéressante d'être face à soi-même et de se dire, « Allez, tu réponds honnêtement, qu'est-ce qui t'intéresse au fond ?»
Tu creuses.
Tu creuses. Et j'ai creusé et je me suis dit, mais au fond, c'est la culture. Et la littérature m'intéressait. Sauf que je voyais bien que j'avais envie d'écrire, mais j'osais pas me le dire à moi-même. Ça paraissait un peu prétentieux, à moi, écrivain. Bon. Je me suis dit, faisons une espèce de marche d'approche un peu modeste et on va procéder par étapes. Et là, je dois beaucoup au groupe Bayard Presse. J'avais trouvé une petite annonce dans la presse. Ils cherchaient aussi quelqu'un qui faisait de la finance. Donc j'ai dit, d'accord, moi je veux bien faire ça pour vous pendant 2 ans. Mais après, est-ce que vous seriez d'accord pour que je passe du côté créatif, du côté des rédactions ? Et ils m'ont dit, d'accord, on peut essayer. C'est un peu bizarre votre parcours, mais vous êtes sûr que vous voulez renoncer à HEC, à tout, gros salaire, à tout. Je dis bah oui, moi au fond j'ai envie d'essayer de changer de vie. Et ils ont joué le jeu, donc vraiment je leur dois quelque chose. Et après, donc après 2 ans, j'ai divisé mon salaire par 2 et j'ai commencé à écrire pour des publications de Bayard Presse. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue journaliste et de fil en aiguille, je suis devenue écrivain. Voilà.
Et vos premières publications, c'était déjà des publications pour enfants ?
Oui, c'était des publications pour enfants.
Pourquoi des publications pour enfants ?
Alors, parce que j'avais 3 enfants moi-même et que je pensais à tort qu'écrire pour les enfants, c'était plus facile. Mais non, bien sûr que non. Quelle erreur ! C'est beaucoup plus... Enfin, c'est très exigeant en réalité. Vous savez, il y a un roman de Tournier, c'est Tournier qui m'a dit ça, qu'il y a un roman qui s'appelle Vendredi ou La vie sauvage et Vendredi ou Les larmes du Pacifique. Les larmes du Pacifique, c'est pour les adultes et La vie sauvage, c'est pour les enfants. Et il m'a dit, mais tu sais, en réalité, j'ai beaucoup épuré le roman pour enfants. Et c'est comme une espèce, oui, d'épure, de choses très... Il ne reste plus que les idées principales avec les enchaînements intellectuels et logiques principaux. C'est plus difficile de faire ça. Donc voilà, j'ai commencé, j'en ai fait 10. Puis après, je me suis lancée dans le grand bain. Et j'ai fait 4 livres pour adultes.
Et parmi les titres de vos livres pour enfants, il y a un titre tout à fait évocateur, « Les clés du paradis ».
Ah oui, oui, oui.
Pourquoi ce titre ?
Sous mon nom de femme mariée. Alors, pourquoi ce titre ? Alors, l'histoire, c'est une famille qui doit déménager, quitter la maison de famille, donc la belle maison de famille cossue dans la banlieue parisienne. Et la petite fille, ou l'une des petites filles, est totalement désespérée. Parce qu'elle pense que c'est vraiment son lieu d'enfance, c'est le lieu qui concentre toute sa mémoire et puis la mémoire de la famille. C'est une mémoire compliquée, hein. C'est une mémoire... Moi, je suis chrétienne, mais mon mari est moitié protestant, moitié juif. Et c'est l'endroit où des grands-parents avaient été arrêtés par la Gestapo. Donc, c'est vraiment une histoire très dense. Bref, c'est comme si les enfants, en fait, je leur avais jamais expliqué, mais c'est comme s'ils sentaient quelque chose. Donc elle était désespérée, ma petite fille. Et donc j'ai écrit ce livre pour dire que quand on a eu une enfance heureuse dans un lieu, c'était son cas, c'était comme si ça formait un socle pour toujours et que en définitive on pouvait l'exporter ailleurs, dans n'importe quel lieu, et qu'il y avait cette espèce de trésor enfoui en nous dans lequel elle pourrait toujours puiser et qui la nourrirait et qui la porterait.
Parce que lorsque on vous entend, Florence Noyville, les clés du paradis, et quand on vous entend l'histoire, on a l'impression quand même que c'est une maison, mais c'est une maison aussi intérieure, et que ce paradis, ce n'est pas non plus un paradis extérieur, mais finalement, il y a toute une recherche spirituelle.
Bien sûr, c'est tout à fait ce qu'on porte en soi. En fait, presque tous mes livres portent un peu là-dessus, aussi sur le travail intérieur qu'on peut faire.
Vous avez dit, vous êtes chrétienne.
Oui.
Et quelles sont les grandes questions en tant que chrétienne qui vous traversent pour écrire ?
Pour écrire, je crois... Alors, vous savez, il y a un écrivain qui a dit j'écris avec ce que je ne comprends pas. Donc, j'essaye de m'approcher de quelque chose de mystérieux à chaque fois. C'est ça le déclic pour chaque livre. Pour cette maison, c'était comment on peut s'attacher à un lieu, parce qu'au fond... Un lieu, c'est un peu dérisoire, même si c'est une maison de famille à laquelle on est attaché. Ça n'est qu'une maison. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà ? Il y a un autre livre qui s'appelle La Donation, qui est sur les relations entre mère et fille. Et ces relations sont un petit peu biaisées par le fait que la mère, dans mon roman, est atteinte de maladies bipolaires. Elle est maniaco-dépressive. Comment est-ce que ça va façonner la vie de la fille ? Et puis un autre roman, là, le plus récent, qui s'appelle L'attachement, qui est sur qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se joue en nous quand, dans une passion amoureuse, on s'attache justement à quelqu'un dont on n'aurait jamais dû en réalité s'approcher, parce qu'il se trouve qu'il y a une grande différence d'âge entre la jeune fille et puis l'homme dont elle tombe amoureuse. Vous voyez, c'est à chaque fois une sorte de questionnement un petit peu mystérieux, quelque chose qui nous dépasse complètement, mais qui nous emporte en même temps, dont j'ai envie de m'approcher pour le creuser. Je ne dis pas que je trouve nécessairement une question, mais l'aspect psychanalytique, l'aspect littéraire, l'aspect philosophique, l'aspect scientifique aussi, puisque là, dans le dernier roman, l'héroïne est étudiante en médecine et donc elle résonne aussi à travers la neurobiologie, à travers des choses comme ça. Et puis, bien sûr, l'aspect spirituel me guide pour essayer de m'approcher du mystère.
D'un mystère, vous dites ce qui me déporte, ce qui me dépasse, mais aussi d'un mystère qui nous fait vivre.
Oui, mais absolument, qui nous fait vivre. Ça, c'est le, je sais pas, c'est le côté mystérieux, extrêmement, extrêmement stimulant, extrêmement attachant, parfois extrêmement dur aussi de la vie au quotidien. Parce que la passion amoureuse, c'est pas toujours drôle. Ça peut être aussi de la souffrance, mais... Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, on nous apprend dans nos sociétés hyper rationalistes à l'occidental qu'on est ce qu'on veut, qu'on décide de son destin, qu'on se fait nous-mêmes. Mais en réalité, c'est pas vrai. On est juste rien et on est un petit peu ballotté.
Et vous avez cet sentiment d'être rien, d'un rien qui est ballotté ?
Moi, j'ai le sentiment, je voudrais arriver à penser que la vie n'est pas seulement une succession de courses de haies qu'on saute les unes après les autres pour réussir je ne sais pas quoi, la course à la réussite sociale, encore moins à l'argent. Je voudrais arriver à être dans l'instant, vous voyez, comme on est là maintenant, à avoir un vrai échange, à pouvoir se échanger un regard, une complicité. En tout cas, à vivre à la fois dans l'instant présent, dans le carpe diem, et à la fois dans quelque chose d'une espèce de quelque chose de bien au-delà, qui fait que si je me dissous dans le grand tout, si je n'existe pas, si je suis juste un petit atome de rien du tout, ça me va aussi.
Dans votre parcours, Florence Noyville, il y a votre mari.
Oui.
Et votre mari, c'est quelqu'un en France, c'est Martin Hirsch.
Oui.
Est-ce que ça a été important aussi ?
Ah bah, bien sûr, ça a été c'est extrêmement important, parce que ça fait 20... Là, on vient de fêter nos 25 ans de mariage. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est quelqu'un de très engagé, c'est quelqu'un de totalement désintéressé. C'est quelqu'un qui a choisi que... Entre être quelqu'un et faire quelque chose, il valait mieux faire quelque chose. Et je trouve que c'est complètement à rebours des idées dominantes dans la société d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il fait des choses plutôt bien.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
C'est comment on peut concilier toutes les sortes de passions, y compris les passions au sens de Bach, au sens religieux, au sens...
Votre interrogation, c'est comment vivre à fond finalement plusieurs domaines.
C'est ça, exactement. J'aimerais démultiplier les vies et je sais bien que ce n'est pas possible.
Comment vivez-vous cela avec vos enfants ?
Je voudrais leur dire à quel point la vie mérite d'être vécue et leur transmettre une espèce de joie. Et comme j'ai moi-même reçu une espèce de mélancolie de la part de mes parents, je sais bien qu'il y a aussi une part sombre que je ne peux pas complètement gommer. Mais d'une certaine façon, je voudrais leur dire deux choses. Que la part sombre, ça peut être aussi un moteur de créativité. Quand on regarde les grands maniaco-dépressifs de l'histoire, c'est fou. Van Gogh en a été un, Churchill en a été un. Presque tous les créateurs sont minés par quelque chose d'extraordinairement noir, sombre, pessimiste, etc. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils n'ont pas, et je les ai aussi, des élans de joie, de gratitude, d'émerveillement, ça c'est sûr. Et alors du coup, j'ai envie de leur dire à mes enfants, prenez la vie dans sa complexité, et puis... Tâchez de l'accepter sans forcément essayer de comprendre.